carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Pour connaître, pour approcher le virtuose Glenn Gould, il fallait avoir la chance d'assister à un de ses concerts. Et on sait qu'ils se sont arrêtés en 1964 à sa demande alors qu'il n'avait que 32 ans. Alors depuis, on ne connaît Glenn Gould que par l'enregistrement. Des enregistrements que Gould voulait parfaits, auxquels il consacrait des heures pour peaufiner le montage. Une obsession de l'objet poli à l'extrême, un peu comme un sculpteur peut polir sans cesse son marbre. Et il y a un autre moyen, moins connu, d'approcher Glenn Gould, c'est sa correspondance. Et vous êtes là pour nous en parler. Guylaine Gartin, bonjour, merci bonjour. D'être avec nous. Vous êtes professeure associée à la Faculté de musique de Montréal. Vous êtes associée à l'Observatoire musical français à Paris, que nous connaissons bien puisque nous sommes partenaires de l'OMF. Et puis, vous avez écrit une thèse de doctorat de philosophie, puisque vous êtes philosophe de formation, sur l'interprétation de Glenn Gould. Alors, comment passer d'une thèse sur Glenn Gould, sur son interprétation, à sa correspondance?
Ah voilà, la question est tout à fait pertinente. Je dois dire d'entrée de jeu que effectivement, je n'ai pas eu accès à sa correspondance au moment où j'écrivais et je faisais ma recherche en vue de cette thèse de doctorat. J'avais d'ailleurs écrit à Glenn Gould pour lui demander s'il pouvait pas me fournir quelques pistes sur le sujet qui me passionnait, qui effectivement était l'art de la fugue, son enregistrement à l'orgue de l'art de la fugue. Il m'avait gentiment répondu « Écoutez, je vous souhaite bonne chance, mais je ne peux pas vous aider, je ne conserve aucun document. »
Donc vous avez correspondu avec Glenn Gould.
Ah ben oui, mais écoutez, déjà. Si peu, une fois, et j'ai reçu deux lettres, ouais. C'est pas ce que j'appelle vraiment une correspondance. Mais il m'avait dit l'essentiel, à savoir que je ne pouvais pas compter sur lui. Ouais. Bon, il était très content d'apprendre qu'il y avait une thèse en philosophie qui se faisait sur l'art de la fugue et sur son interprétation de l'art de la fugue. Mais avec beaucoup de gentillesse, il me dit « Désolé, mais je ne peux rien vous fournir comme document précieux. »
Alors, coïncidence incroyable, le jour où vous soutenez votre thèse, Glenn Gould disparaît. Exactement. Le 4 octobre 1982. Et c'est après coup que vous avez accès à sa correspondance, c'est ça?
Oui, alors là, il y a toutes sortes d'événements. En fait, c'est ce qu'on appelle peut-être, en langage de philosophe, une coïncidence plutôt existentielle qui ne s'explique pas.
C'est très curieux.
C'est très, très curieux. J'apprends par les nouvelles, la veille justement du dépôt de ma thèse et de la soutenance, que Glenn Gould est très malade, il est hospitalisé et bon...
Et puis c'était la première thèse du genre
oui,
sur son interprète.
C'était une des premières thèses sur son interprétation. Et le lendemain matin, donc, je me vois encore au volant de la voiture avec mes exemplaires et tout. Et j'apprends effectivement que Gould venait de mourir d'une commotion cérébrale. Et je me suis présentée donc devant mon jury sans en dire mot. Et voilà. Et par conséquent, cette thèse s'est écrite et la recherche s'est faite péniblement parce que, n'ayant pas vraiment accès à ses archives et surtout sa correspondance. Donc, pour répondre à votre question plus précisément, cette correspondance a été archivée après sa mort. Elle a été archivée à la Bibliothèque nationale du Canada. En fait, j'ai eu l'étonnement de découvrir qu'il y avait des milliers de lettres lettres, évidemment, qu'il expédiait, il les gardait, il les conservait, on en reparlera dans quelques instants, et les lettres reçues qui étaient encore plus importantes que celles qu'il avait expédiées, en nombre, je dis bien.
Et il avait conservé un exemplaire des lettres qu'il envoyait.
Alors voilà, donc je vais maintenant vous parler du processus d'écriture. C'est fort intéressant. Gould adorait le téléphone. Oui. On le sait, il aurait eu beaucoup de bonheur à vivre ce qu'on vit aujourd'hui.
Avec, alors du téléphone portable.
Voilà, Et par conséquent, il dictait sa lettre, il était toujours très pressé, il dictait ses lettres au téléphone à sa secrétaire, lui demandant de dactylographier la lettre avec papier carbone, de lui en expédier évidemment une copie assignée et de conserver l'autre. Donc, il avait, nous sommes en fait en présence, oui, d'un nombre, vraiment une quantité très importante de toutes ces lettres qu'il a expédiées.
Et il était lui-même archiviste de ses
propres lettres,
c'est ça ?
Il était lui-même archiviste, voilà, c'est intéressant comme remarque. Et il gardait également copie des lettres qu'il recevait. Ouais. Mais tout cela dans un désordre inextricable. Je dois dire que lorsqu'on a découvert, lorsque les archivistes ont découvert effectivement sa correspondance, c'était pêle-mêle dans des espèces de sacs d'ordures. Il y a eu un travail magistral de fait par nos archivistes pour faire en sorte que cette correspondance soit utilisable, en fait, ouverte au public, parce qu'elle passait donc du domaine privé au domaine public.
Donc vous vous retrouvez face à ces lettres. Oui. Comment est-ce que vous avez procédé ? Comment vous avez classifié votre travail et ces lettres ?
Ah là, il y a un problème encore là, intéressant, qui s'est posé. Elles étaient déjà classifiées par ordre chronologique, les lettres expédiées d'un côté, les lettres reçues de l'autre. Mais alors, j'ai procédé, et votre question est tout à fait pertinente, j'ai donc dû procéder à une autre classification en fonction justement de mes besoins de recherche, les thématiques, les problématiques sur lesquelles je travaillais. Et bon, je vais vous donner un petit exemple. Je les ai classifiées par sujet, par exemple, par thématique, famille, amis, mais ses répertoires, ses concerts, ses enregistrements, ses collaborateurs. Et puis, en affinant de plus en plus les problématiques posées dans chacune de ses lettres. Parce que sa correspondance ne se lit pas comme un roman, elle ne se lit pas comme une fiction non plus. C'est, en fin de compte, une correspondance d'artiste avec, je dirais, une explication de sa conception de l'interprétation, de ses goûts, de son esthétique, quoi. C'est pour ça qu'elle m'aurait été extrêmement précieuse au moment où je faisais ma thèse. C'est une correspondance qui tient lieu parfois d'agenda, c'est-à-dire qui concerne l'œuvre déjà faite, l'œuvre qui se fait et l'œuvre à faire, et par conséquent avec des dates. Et comme le personnage est pluriel parce qu'il n'est pas seulement que pianiste, virtuose, interprète, il est compositeur, il est, je le dis avec beaucoup de précaution, écrivain, entre guillemets, en précisant qu'il était d'abord et avant tout théoricien, analyste, quoi. C'est un homme de radio, c'est connu maintenant. Il a fait effectivement des documentaires radiophoniques intéressants. Il innove avec un micro où il fait entendre des paroles, qui se présentent sous forme contrapuntique avec un fond musical qui les accompagne. Il a fait des émissions de télévision. Il écrit tout. Et comme il est obsessionnel, et bon, c'est pas seulement qu'un défaut, il écrivait tout dans le menu, y compris même lorsqu'il s'agissait d'interviews, etc., y compris même les questions de ses intervieweurs. Questions et qui plus est, réponses. Alors à la radio, on est en présence effectivement d'animateurs très brillant, très pertinent, et on se dit, comme il comprenait bien Gould, on comprenait bien le personnage. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'effectivement, ses archives le démontrent bien, il avait tout préparé à l'avance. Question, réponse, développement, introduction, conclusion, pas seulement qu'un plan, mais dans le menu, quoi.
Avant même l'interview.
Avant même, oui, tout à fait.
Quand est-ce que commence la correspondance? Quand est-ce qu'il commence à écrire?
Elle commence très très tôt avec des cartes de souhait à ses parents lorsqu'il est enfant. Mmh. Mais sérieusement, dès 1955, au moment où il devient célèbre par son enregistrement bien connu maintenant des Variations Goldberg, et débute aussi sa carrière de concert, j'allais dire sérieusement, quoi qu'elle avait débuté avant, notamment bon, à l'Orgue. Mais très sérieusement, oui, c'est en 1955. Donc, nous avons, je dirais, dans cette correspondance, deux parties complémentaires. La première, qui est, j'allais dire, qui traite surtout de ses années de concertiste, et donc toute sa carrière internationale. Et puis la seconde partie, qui traite surtout de ses enregistrements et de ses multiples projets jusqu'à sa mort, survenue en 1982, le 4 octobre 1982.
Donc, ces deux parties de sa vie qui sont effectivement bien distinctes au niveau de son jeu pianiste. Et ça se ressent dans sa correspondance.
Oui, absolument. Oui. Ah oui, ça se ressent.
Parce qu'il ne parle pas des mêmes choses.
Il ne parle pas vraiment d'autre chose que, comme je le disais tout à l'heure, de l'œuvre qui est déjà faite, avec donc un retour sur les points de vue qu'il a privilégiés à tel moment, ses répertoires, l'œuvre qu'il est en train de faire. Ça peut être un article qu'il est en train d'écrire, ça peut être ses émissions radiophoniques, ça peut être ses émissions télévisuelles, ça peut être aussi sa musique pour le cinéma, parce qu'on sait qu'il a aussi composé pour le cinéma. Ça peut être aussi son quatuor à cordes. Bon, mais il en parle donc beaucoup dans ses lettres. Et puis après, donc, l'œuvre qui est à faire. C'est-à-dire, c'est une avalanche de projets, en fait. Sa correspondance est une avalanche de projets. Oui. Vous me posez la question sur les personnes à qui il écrivait et je dois dire que ce qui est le plus touchant, bien sûr qu'il y a de très belles lettres à Yehudi Menuhin parce qu'ils étaient très bons amis, à Bernstein aussi, à Pablo Casals également. Mais ce qui est très touchant, c'est de considérer le temps qu'il met pour répondre à des inconnus, des jeunes pianistes qui lui demandent conseils. Il y a de très très belles lettres où on découvre effectivement, on le découvre, oui, on le découvre, je dirais, comme pédagogue. Alors qu'il s'est bien gardé d'enseigner et il se dit qu'il n'a aucun talent de pédagogue, il n'a pas la patience non plus d'un professeur. Et bon. Mais il est donc dans ses lettres.
Oui, mais c'est de l'enseignement à distance.
Oui, voilà, voilà.
Oui, cette distance avec l'autre, avec le public qu'il avait instauré et qui lui pesait tellement qu'en 1964, il arrête de donner des concerts.
Absolument, absolument. Il y a besoin de cette distance.
Donc la correspondance lui va très bien, en fait.
Ah oui, oui. Et surtout que quand on pense à ce qu'est l'écriture d'une lettre, c'est une écriture intimiste, c'est l'écriture au jeu. Et l'autre est non seulement distant, il est là, mais il est également absent. Et donc, il était très, très à l'aise dans cette forme d'écriture. Mais parfois, je dis à l'aise, spontané, mais c'est difficile de parler de spontanéité, j'écoute. Il est probablement dans son caractère, je dirais plutôt dans l'humour avec lequel il écrit certaines lettres.
Et il préparait ses lettres, autant qu'il préparait ses interviews.
Tout est préparé chez Gould. Tout. C'est pour ça que je vous dis que je parlerai de spontanéité avec beaucoup, beaucoup de précautions. Mm-hmm. Avec beaucoup de précautions. Parce que j'ai découvert effectivement tous ces brouillons de lettres, de son écriture épistolaire. Ça, on peut parler d'écriture épistolaire. Dans ce cas, je pense que oui. Mais voilà, donc les brouillons, parfois, sont plus intéressants que la lettre elle-même.
Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces brouillons?
Oh, je dirais un style qui est humoristique, hein, je viens de le dire aussi, mais plus dans ces brouillons. Des ratures, des notes en marge. C'est ce qui me fascine d'ailleurs quand je travaille au niveau des archives, pas seulement de sa correspondance, mais dans son journal par exemple, ou encore dans ses brouillons d'articles.
Thank you.
Est-ce qu'on peut en venir au fond, le contenu de ces lettres? Vous qui avez travaillé sur Glenn Gould sans ces archives et ensuite avec, qu'est-ce qu'elles vous ont révélé de Glenn Gould? Qu'est-ce que Glenn Gould ne disait pas à l'oral et qu'il disait à l'écrit?
C'est qu'il peut-être trop vaste comme question. À l'oral et qu'il révèle à l'écrit. Bon, d'abord, toute son analyse de l'art de la fugue, c'est quelque chose de fabuleux. Tout son point de vue aussi sur l'instrument. Par exemple, bon là je m'intéressais à son interprétation à l'orgue, sa conception de l'orgue. Sa conception de l'orgue par rapport au piano. Il nous dit, en fait, il a dit souvent au micro, il était un musicien, pour reprendre son expression, instrumentalement indifférent. Il n'aime pas le piano, dit-il, en boutade. Or, dans ses lettres, c'est tout à fait l'inverse. On découvre un autre musicien, un autre Gould, qui se dit amoureux de son instrument principal, qui est le piano, qui se dit passionné par l'orgue, qui se dit aussi animé par un amour considérable du clavecin, et qui plus est, qui conçoit le piano comme un orchestre. Et on a l'impression, justement, dans ses lettres, que il est à l'orgue et lorsque vous écoutez son enregistrement de l'art de la fugue, on se dit, alors il ne faut pas être trop conservateur parce que on se dit quand même, ce n'est pas de l'orgue. Il joue comme s'il était au piano avec un staccato et donc un détaché pour rendre l'architecture de l'œuvre beaucoup plus présente. Il projette donc à l'orgue sa technique pianistique. Il est au piano, il s'imagine à l'orgue. Il est au clavecin, ben voilà qu'il va projeter au clavecin une technique qui est plutôt propre au piano, avec un sostenuto et un legato. Il est donc au piano et puis le voilà comme chef d'orchestre, c'est-à-dire devant un orchestre imaginaire. C'est ce qui frappe d'ailleurs quand on le voit dans les vidéos maintenant, dirigé de sa main gauche, l'œuvre qu'il est en train de jouer, d'interpréter. Et sa main gauche, c'est la direction imaginaire d'un orchestre.
Il raconte ça à l'écrit ?
Oui, tout à fait. Parce que les lettres des correspondants, des correspondanteux aussi, sont fascinantes à cet égard. Gould, je vous ai entendu, pas seulement entendu, je vous ai vu. Que faites-vous avec cette main gauche? Que faites-vous avec vos pieds? Comment, pourquoi, qu'est-ce que vous dirigez exactement? Et là, il va répondre dans le menu. Il va vraiment prendre le temps qu'il faut pour expliquer. D'ailleurs, je peux très bien amorcer plutôt son explication. Il dit qu'effectivement, il dirige avec sa main gauche en pensant qu'il va donner, il va offrir à l'auditeur le son le plus clair, le plus précieux qui soit. Il est en contact avec la musique elle-même. Et sa main gauche dirige la musique en elle-même, avec toute l'authenticité qu'il veut justement y exprimer.
Est-ce que ces lettres se voulaient un peu des théories musicales ou des pratiques de l'instrument, comme des traités musicaux ?
Oh non, pas du tout. C'était pas son style, pas du tout. D'ailleurs, j'allais dire que s'il avait eu ce talent de pédagogue, probablement qu'il l'aurait. On les aurait lus peut-être comme des traités, mais pas du tout. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas aider, il ne peut pas conseiller le jeune pianiste qui dit avoir tel problème avec l'ornementation d'une des variations Goldberg. Il lui dit écoutez, il n'y a pas de doigté a priori. Je ne peux pas vous dire comment faire. Analysez la partition, analysez l'œuvre, parce que tout passe par là chez Gould. La musique, pour lui, il le répète aussi dans ses lettres, non seulement dans ses autres écrits, la musique est d'abord cognition. davantage cognition que sensation. Tout commence par l'analyse de l'œuvre. Et il dit justement à ces musiciens qui sont à la recherche du doigt idéal, vous allez le chercher longtemps, sans le trouver probablement. Ce doigt idéal doit surgir de l'esprit au moment où vous analysez l'œuvre, au moment où vous êtes devant la lecture de la partition.
Je crois que vous avez travaillé aussi, Madame Gartin, sur la façon dont on peut écouter l'interprétation de Glenn Gould et comment on met en mots cette sensation. Comment est-ce que vous décryptez l'analyse que fait lui-même Glenn Gould sur son interprétation? Est-ce qu'il est bon dans son analyse?
Vous voulez dire bon? Est-ce qu'il très est... minutieux, très clair?
Est-ce qu'il vous semble lucide?
Ah bah oui, tout à fait. Tout à fait. Et le plus bel exemple qu'on puisse trouver, c'est en fait sa comparaison entre ces deux enregistrements des Goldberg de 1955 et sa dernière version, donc réalisée avant sa mort, 1982. Il n'aime pas, il dit ne pas reconnaître l'homme qui a réalisé la version de 1955 et pour telle raison. Il va donc reprendre la version finale que l'on connaît avec un autre souci, avec une autre approche de l'œuvre et en montrant justement ces nouveaux points de vue et tout est perçu d'un point de vue analytique. Il y a peu de choses qui se font spontanément.
C'est-à-dire que lui-même, dans son écriture, il est toujours dans l'analyse et dans le cérébral. Il
toujours.
Est rarement dans l'emportement et dans la passion.
Ah non, j'aime beaucoup votre remarque parce que c'est ce que l'on découvre de lui dans certaines vidéos, effectivement. Lorsqu'il est en studio et qu'il fait l'essai des instruments qui sont à sa disposition, c'est du Gould à son meilleur. Il improvise. Il improvise du jazz, il improvise, j'allais dire, il joue n'importe quoi. Mais ce n'est pas n'importe quoi. On se dit, c'est ça qui devrait être enregistré aussi. Donc, oui, il y a place pour sa passion, pour l'expression d'une passion qui n'est pas retenue quoi, par l'analyse, qui ne passe pas par l'analyse. Mais c'est en studio. Et ce n'est pas donné... vraiment au grand public, quoi.
Est-ce qu'il écrit des choses différentes suivant, j'imagine, suivant les personnes, suivant les locuteurs, suivant le destinataire? Qu'est-ce qu'il écrivait à Bernstein particulièrement?
Oui, écoutez, je vais vous dire d'abord, pour répondre au début de votre question, à des personnages très sérieux, ce sera les plus belles lettres d'humour à découvrir, effectivement. C'est comme si il allait à l'encontre du caractère de...
Il veut le surprendre.
Oui, il veut étonner, il veut le surprendre. Et puis, son entrée en matière peut être très, très fantaisiste. Et puis, assez rapidement aussi, on passe au sérieux. Et puis, il va terminer avec des signatures tout à fait imaginaires et des personnages fictifs. Il va jouer, oui, vous me parliez de graphologie au départ, et parfois, effectivement, il va signer ses lettres d'une drôle de manière, quoi.
C'est-à-dire sous d'autres
en
noms
prétend...
que
oui,
le
oui,
sien
oui, 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 tout à fait, oui, oui absolument.
Ah, c'est étonnant. Vous me disiez, juste avant de commencer cette émission, vous me disiez que Glenn Gould avait du mal parfois à écrire les mots jusqu'au bout.
Ah ben oui, c'est le problème que nous avons lorsque nous sommes en présence de ces archives.
Mmh, pour décrypter,
pour
ça doit
décrypter
être,
ces ça doit manuscrits, être c'est absolument parfois illisible. Bon, je vous donnais un exemple, un article ou un brouillon, plutôt un brouillon, parce que dans l'article, ce sera clair, mais dans un brouillon, B. Il va être question de B. Bon, ben, il faut vraiment avoir des connaissances musicologiques pour savoir s'il s'agit de Brahms, de Beethoven ou enfin de Bach, quoi. Je veux dire, c'est pas Bartok. Pourquoi pas Bartok aussi? Bon. Et puis, bon, oui, il écrit avec des mots qui ne sont pas... avec des abréviations, voilà, avec des abréviations. Et puis, il écrit très mal, en plus. Il y a une graphie extrêmement difficile à lire, à décoder. Alors, c'est un travail passionnant, mais qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et de patience.
Ouais, ouais. J'imagine que dans l'écriture aussi de Gould, on peut lire un tempo, on peut lire un rythme qui était si important dans son interprétation.
Votre question est fascinante, oui. Son rythme est à l'image de sa parole. Sans repos, sans respiration, avec des phrases, je le mentionnais dans mon introduction à la correspondance publiée chez Bourgois, ces phrases sont des phrases gigognes. C'est-à-dire qu'il y a une parenthèse et la phrase se poursuit avec la parenthèse de la parenthèse, la parenthèse de la parenthèse de la parenthèse, et ça peut être à l'infini.
C'est une fugue, en fait.
Oui, c'est une fugue. C'est une fugue. Et parfois un contrepoint, oui.
En même temps, Glenn Gould, quand il jouait du piano, c'est vrai qu'il y a un peu deux aspects. Enfin, moi, j'y vois deux aspects. Il y a le côté extrêmement régulier, quasiment mécanique, et puis en même temps, un grand sens de l'espace et du silence. Il savait respirer, il savait s'arrêter.
Au piano.
Oui.
Au piano. Mais sa parole, lorsqu'il téléphonait, je vous disais qu'il adorait le téléphone, donc il appelait ses amis, c'était un insomniaque, et il profitait de la nuit pour parler à ses amis, donc il les appelait à n'importe quelle heure. Et c'est une parole sans fin, sans respiration, toujours pressée, pressée par le temps qui...
Peut-être pour ça qu'il écrivait en abréviation aussi.
Oui, absolument.
Et ses lettres sont des lettres fleuves, si je comprends bien.
Oui,
c'est ça.
Oui, absolument.
Alors, Guylaine Guertin, dans ses lettres, il parle de sa conception d'interprète-compositeur qui lui est propre.
Oui, voilà, et c'est extrêmement important. Je pense que c'est bien connu, mais je me permets de répéter ce qu'on a beaucoup lu et entendu. Il se définit comme un interprète-compositeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il s'approprie l'œuvre du compositeur en ne cherchant surtout pas à exprimer les intentions de ce compositeur, les intentions, comment est-ce que ce compositeur voulait que son œuvre soit jouée, exécutée, interprétée. Donc, pour reprendre un langage tout à fait contemporain, il n'est pas à la recherche d'une authenticité historique, surtout pas. Mais plutôt, il ira plutôt vers l'expression de sa propre authenticité. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, à partir de l'analyse, de sa propre analyse de l'œuvre, il aura fait des choix personnels, il l'aura entendu, effectivement, en y projetant ses propres intentions, il l'aura même déconstruite pour la reconstruire. On entendra, bien sûr, on la reconnaîtra, on reconnaîtra cette œuvre. Peut-être pas Mozart, lorsqu'il interprète quelques-unes de ses sonates. Ça, c'est autre chose. C'est, j'allais dire, presque une exception. Mais lorsqu'il l'interprète... évidemment, bon, il faut aussi préciser qu'il choisit un répertoire en conséquence. Le répertoire baroque lui permet effectivement de projeter ses intentions personnelles, son point de vue, etc. sur l'œuvre.
Il s'en explique dans ses lettres,
oui.
De ça?
Oui. Oui, parce qu'il reçoit d'innombrables lettres avec les mêmes questions.
Qui lui demandent de s'expliquer, en fait, qui le somme de s'expliquer.
Absolument.
On se demande.
On se demande. Ouais. Et cette expression qu'il a souvent utilisée, à savoir que je suis un interprète-compositeur et non pas un exécutant, j'allais presque dire à la manière de cette ancienne philosophie qui voulait qu'un exécutant exécute ce que le compositeur avait à dire. Une sorte, j'allais dire pour Gould plutôt, une sorte d'interprétation d'herméneutique aussi de l'œuvre qu'il va approcher par son analyse. Mais pour la suite, oui, c'est vraiment une interprétation.
C'est une recréation.
Oui, une recréation, tout à fait. Oui. Un point de vue de créateur. Pour donner à l'œuvre une sonorité nouvelle.
Alors que celui qui exécute met l'œuvre à mort.
Oui. Maintenant, bon, il y a une question fondamentale qu'on peut se poser, à savoir, est-ce qu'on peut se limiter à une exécution? Je veux dire, est-ce qu'un exécutant ne fait que jouer ce qui est écrit? Il y a toujours une projection du sujet qui interprète, d'une subjectivité, en fait, projetée sur l'objet qui existe matériellement, quoi.
Bien sûr. Guylaine Gartin, est-ce que Gould s'explique aussi sur ce qu'il a fait avec fracas, qui est d'arrêter de faire des concerts?
Oui.
Parce que c'est aussi une grande curiosité.
Oui, il a été obligé de se justifier, il a été obligé d'expliquer combien de fois il le répète à tous ses admirateurs et admiratrices qui essaient de comprendre ce choix. Puisque lorsqu'il abandonne en 64, il est au sommet de la gloire, quoi. Et son choix est très subjectif. Ben oui, il est nécessairement subjectif, mais très clair aussi. On comprend. On comprend très bien les valeurs sous-jacentes à cette décision. Comment il dit dans ses propres mots, je ne peux pas concevoir qu'un artiste, qu'un pianiste en concert ne puisse se donner une seconde chance. Et c'est vraiment ça le concert. C'est ce qui en fait aussi toute sa valeur. Mais pour lui, c'était extrêmement pénible de savoir qu'il ne pourrait pas reprendre, se permettre de reprendre l'œuvre dans l'immédiat. Alors que, évidemment, le studio d'enregistrement lui permet, bon, je ne m'attarderai pas là-dessus parce que c'est bien connu, tout son processus de montage, de collage, bon, de collure plutôt, est bien connu. Il pouvait travailler des nuits complètes avec ses collaborateurs en studio, se donnait plus qu'une seconde chance.
Guylaine Gartin, vous qui travaillez sur Glenn Gould, vous avez construit une exposition au Canada, à Ottawa, hein, c'est ça?
Oui, au Musée canadien des civilisations.
Voilà. Comment est-ce qu'on expose Glenn Gould sur des murs?
Eh oui, ça a été la question que je me suis posée en tout premier lieu, avant même d'accepter cette charge de chercheur invité pour cette exposition. Comment exposer, comment montrer Glenn Gould? Parce que c'est quand même une exposition. Ce que Gould a de plus précieux à nous offrir, ce n'est pas quelque chose à voir, mais bien à entendre. Ce qu'il fallait montrer n'a rien d'esthétique. J'étais à la limite parfois un peu gênée par ces artefacts. Gênée comme si Gould avait été avec moi pendant cette recherche et il m'aurait dit « Ah non, vous n'allez quand même pas montrer ce divan absolument, mais d'une laideur absolue. Vous n'allez pas quand même montrer ma table à café qui est complètement couverte de taches, qui, bon, des objets. » Gould ne possédait pratiquement rien. Il avait des valeurs qui n'étaient pas de l'ordre matériel. Des valeurs, oui, des valeurs spirituelles, des valeurs esthétiques. Comment montrer ce qu'il ne voulait pas montrer, ce qui ne se montrait pas?
En même temps, il y a beaucoup de... Il aimait bien se montrer aussi, se mettre
oui,
en scène.
Oui, alors là, écoutez, pour entretenir le culte Gould, on a montré tout ce qu'il fallait montrer. Le personnage avec sa casquette, ses mitaines, ses paletots, ses habits qui font que il y a des quarts et des quarts de touristes qui descendent. Si on leur permettait de prendre un morceau de relique pour emporter, bon, mais c'est quand même une exposition, donc ces artefacts sont là et. Bon, il y a par exemple un objet qui attire beaucoup la curiosité, qui était cette espèce de bassin d'eau chaude dans lequel il trempait ses mains avant le concert. C'est pas très esthétique, hein, ça fait plutôt laboratoire. Bon, enfin, il y a une chose quand même amusante. Gould était collectionneur, on l'a bien vu de par sa correspondance, mais... Figurez-vous que pendant sa carrière de concertiste international, il s'amusait à conserver ses clés d'hôtel, ses clés de chambre d'hôtel. Alors, les designers ont fait un travail magnifique pour montrer en vitrine, faire en fait avec ses clés un montage tout à fait esthétique et drôle en fait, qui montre une autre facette
de la folie,
Gouldienne.
Merci beaucoup Guylaine Gartin pour ces quelques instants passés ensemble en compagnie de Glenn Gould évidemment. Je note et je renvoie nos auditeurs à deux livres, un livre que vous avez publié spécifiquement sur la correspondance de Glenn Gould, qui est aux éditions Christian Bourgois. Et puis, vous allez publier, courant 2008, un prochain livre également de correspondance aux éditions
Momentum,
québécoises.
Momentum. Voilà, et je signale aussi deux autres collectifs qui sont disponibles en France. L'un s'appelle Glenn Gould Pluriel, toujours aux éditions québécoises, Momentum. Et l'autre s'appelle Variations sur des thèmes de Glenn Gould.
Merci.
Je vous remercie.
Merci, Mme Gartin.